Quatrième cours, donner et recevoir. Alors, je vous rappelle que nous parlons de finances, puisque les finances, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie. Je pense que il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et qui sont beaucoup moins bonnes, qui sont très mauvaises, qui sont dues aux finances. Alors, je vous rappelle dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous avons vu que Dieu veut que nous soyons prospères. Et nous avons remarqué que le mot prospérité n'englobe pas seulement les finances, mais c'est un des aspects. Il y a la prospérité de l'esprit dans la croissance spirituelle, la prospérité liée à l'âme, c'est-à-dire l'épanouissement, réussir dans ce que nous faisons. Et la prospérité du corps, c'est la bonne santé divine et bien sûr la prospérité financière que nous étudions ici. Alors, nous avons remarqué que la définition de la prospérité se trouvait dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 et 8. Nous avons vu que Dieu veut nous combler de toutes ses grâces afin que nous possédions toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, pas seulement certains de nos besoins, et que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc prospérité, nous l'avons vu, c'est quoi? C'est être pourvu dans tous nos besoins, mais aussi avoir la capacité à pouvoir donner, être aussi une source de bénédiction. C'est bien d'être béni, mais aussi il faut pouvoir être une source de bénédiction. Nous avons vu que le mot prospérité veut dire quoi? Veut dire avancer, avoir assez, succès, abondance, etc., etc. Pauvreté, c'est toujours le manque, insuffisance, la destitution, etc. Donc tout ça, c'est négatif. Nous avons vu que Dieu se révèle dans l'Ancien Testament comme El Shaddai, c'est-à-dire celui qui nourrit, qui pourvoit, qui fortifie, qui satisfait, celui qui est tout suffisant. C'est le Dieu aux ressources illimitées, comme une maman qui s'occupe de ses enfants. Ensuite, nous avons vu un autre nom de Dieu qui est Jéhovah Jiré. Et là, ça veut dire celui qui pourvoit, et nous avons marqué que dans la provision, c'est voir à l'avance, voir à l'avance. Alors, nous avons vu, est-ce que Jésus était pauvre? Nous avons répondu à cette question, parce que souvent, c'est quand on commence à parler de prospérité, évidemment, tout de suite, les gens vous disent, ah, Jésus était pauvre, donc nous sommes les imitateurs de Christ, puisque la Bible nous le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, c'est ce que Paul dira, mais attention, Jésus n'a jamais été pauvre, comme beaucoup le sous-entendent. Nous avons remarqué ce qui s'est passé autour de sa naissance, où il y a eu des trésors qui ont été amenés à ses pieds d'une façon miraculeuse. Nous avons vu que Jésus est né dans une mangeoire, non pas parce que ses parents étaient pauvres, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place, pourquoi? Parce qu'il y avait un moment de recensement et qu'il y avait beaucoup de mouvements de population. Et que, en fait, les parents de Christ ne pouvaient pas avoir une chambre. C'est pour ça que Jésus est né là, mais tout de suite, miraculeusement, une provision s'est faite. Et un trésor qui est venu donc à ses pieds même, autour de sa naissance. Ensuite, nous avons vu que en toute chose, Jésus était celui qui pourvoyait aux besoins aussi des pauvres dans son ministère, parce que son ministère était soutenu aussi par des gens qui n'étaient pas pauvres. Nous avons vu que Jésus ne s'est jamais considéré comme pauvre, mais qu'il disait « heureux vous les pauvres et pas nous les pauvres ». Et que vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Sinon, Jésus aurait dit, vous m'avez toujours aussi parmi les pauvres, vous ne m'avez pas toujours aussi parmi les pauvres. Mais Jésus ne s'est jamais considéré comme un pauvre. Donc, ayant vu ça maintenant, nous allons voir un peu la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu. Quelle est la mentalité de Dieu par rapport aux sous, par rapport aux finances? Ben, nous allons voir que Dieu se porte pas trop mal. Apparemment, il n'a pas un compte en banque qui est à zéro ou qui est débiteur. Apparemment, il va se porter très bien d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Alors d'abord, regardons dans Jean 14, verset 2. La Bible nous dit d'avoir la pensée de Christ, me semble-t-il. Jean 14, verset 2. Il est dit, c'est Jésus qui parle, et il dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. » Il y a beaucoup de demeures. Le mot « demeure » ici veut dire « grande maison »,« résidence ». Dans le grec, c'est ce que ça veut dire. C'est pas « petite maison en terre », avec de la paille comme toi, pas du tout. « Grande résidence ». C'est ça que ça veut dire ici. Et Jésus dit quoi? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de très grandes maisons dans la maison de mon Père. C'est où la maison du Père? Il me semble que c'est au ciel, n'est-ce pas? Alors on va aller faire un tour au ciel, parce que la Bible va nous décrire la pauvreté de Dieu dans le ciel. La Bible va nous décrire les richesses de Dieu dans le ciel et ce qui nous attend. Il y en a beaucoup qui vont avoir un choc culturel, vous savez, à cause de mauvaises mentalités quand ils vont aller au ciel. je vous garantis. Regardons ensemble. Alors d'abord, une prière qui est priée souvent par les religieux, et qui pourtant est une belle prière, qui a des grands principes, nous l'avons vu, Matthieu 6. Hein, ce qui est bizarre avec les religieux, c'est que leur façon de voir les choses est toujours complètement tordue. Ils prient des choses, mais finalement, ils savent même pas ce qu'ils prient parfois. Matthieu 6, 10, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors quand on parle de finances, ça pratique, normalement ce verset devrait concerner tout ce qu'il y a dans le ciel, hein, tout ce qui est de la volonté de Dieu dans le ciel, on devrait le voir sur la terre, rayonner sur la terre. Vous êtes d'accord? Il me semble que c'est ça cette prière, non? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quand quelqu'un prie ça, il devrait quand même réfléchir sur ce qu'il prie. Il veut dire finalement, ce qu'il est en train de se passer au ciel, ça devrait se passer sur la terre. Il devrait y avoir un rayonnement de ce qui se passe au ciel sur la terre. C'est ça qu'on prie, non? Me semble-t-il. Vous n'êtes pas d'accord? J'entends pas beaucoup de « Amen ». Me semble-t-il que ça veut dire ça, non? Ah, quand même. Il y a quelqu'un qui est vivant, quand même. Alors, qu'en est-il du ciel? Qu'en est-il du ciel? Ben, regardons ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit à propos du ciel? Apocalypse 21. On va voir la grande pauvreté de Dieu. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 9. À partir du verset 9, on va voir comment Dieu est décrit dans sa grande pauvreté. Il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Vous savez, avec Dieu, tout est grand et haut. Il me montra la ville sainte, la Jérusalem qui descendit du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre de grande pauvreté. Ce que vous avez dans vos Bibles, non? Hein? D'une pierre très précieuse. Ah, bon. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Vous savez, Dieu, en général, quand il construit pas un mur de 2 mètres. Hein? Il construit une grande et haute muraille. Parce qu'il a les sous pour construire. Il n'y a pas de problème, apparemment. Elle avait 12 portes, sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau de bambou cassé. Non, c'est ce que vous avez dans vos Bibles, non? Un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. C'est bien quand même, hein, si les constructeurs avaient tous des mètres en or pour aller faire des mesures, pour préparer des devis, ça voudrait dire qu'ils seraient riches quand même. Hein. La ville avait une forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur, et il mesura la ville avec le roseau. 12 000 stades. Je ne sais pas combien de temps l'ange a mis pour faire la mesure, mais en tout cas, ça fait 2 200 kilomètres à peu près, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, 2 200 kilomètres. Hein. Dieu voit grand en général. Hein. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées. Ah, Dieu peut construire des murs de 70 mètres de haut. C'est pas mal quand même, hein, dans sa grande pauvreté. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Je vous dis franchement, si quelqu'un pensait que l'or était quelque chose de perverti sur la terre et qu'il était chrétien né de nouveau, il va avoir un choc culturel quand il va arriver là-haut, parce que tout est en or, mes chers amis. Tout est en pierre précieuse et tout est en or là-haut. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis. Les fondements, hein, les fondations de la muraille de la ville étaient ornées. Alors vous imaginez, en général, dans les fondations, on met les choses les plus pourries. Hein, on met les gravats, on met les histoires. Hein, tout ce dont on veut se débarrasser, en général. Hein, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais là, apparemment, la pauvreté de Dieu est d'une grande richesse. Hein. Était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Améthyste, c'est un peu plus connu quand même. Les 12 portes étaient 12 perles et c'était pas des perles en plastique apparemment, hein. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur. Elle n'était pas de paille, hein. Il était même pas du goudron, hein. C'est plus que ça, hein. C'est de l'or pur. Comme du verre transparent. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin, hein, pas de la régie des eaux, hein, ou de l'EDF en France peut-être, hein, mais ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. Hein, c'est fantastique. Il n'y a pas de facture à la fin du mois. Hein, c'est génial. Hein. Et l'agneau est son flambeau. Wow, 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 wow. Mes chers amis, voilà ce qui nous attend le jour où nous quittons notre corps. Donc si vous voulez un choc culturel, croyez dans la grande pauvreté de Dieu. Alors, hein. Non, Dieu n'est pas pauvre. Dieu est hyper, 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 super riche. Dieu est hyper, hyper, super riche. Hein. Vous imaginez une ville de 2200 kilomètres de côté qui est avec tout cela. Je pense que toutes les richesses, hein, si on arrivait à vider toute la terre de ces richesses, ne pourrait pas en construire même une petite partie finalement. Vous imaginez un peu? Dieu est très riche. Et la Bible nous dit d'avoir la pensée de Christ, la mentalité de Dieu. Ça, c'est la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu est là. Et il t'a préparé une grande résidence. Donc Dieu t'a prévu quelque chose de grand. Dieu t'a prévu quelque chose de grand parce que c'est sa mentalité. C'est sa mentalité. Dieu a prévu quelque chose de grand parce que c'est un Dieu qui est riche. C'est sa mentalité. Vous savez, si la pauvreté est venue sur la terre, c'est vraiment une conséquence du péché. Hein. Parce qu'Adam et Ève, on n'a pas beaucoup de descriptions dans le jardin d'Éden, mais ça devait pas être mal dans le jardin d'Éden, je vous garantis. Ça devait être sympa là-bas. Mais Dieu a dû détruire tout ça à cause du péché de l'homme. Mais ça, c'est la mentalité de Dieu. Alors quand on vient dire que la pauvreté est une bénédiction, que les gens doivent être pauvres, c'est un signe d'humilité, ben, ça veut dire que Dieu est très orgueilleux apparemment, puisqu'il est très très riche. Et non, justement. C'est là où les gens se trompent. Et dans le ciel, c'est comme ça. Dans le ciel, c'est comme ça. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est important de comprendre ces principes. Avoir la pensée de Christ. Dieu pense grand, Dieu ne pense pas petit. Dieu ne pense pas pauvre, il pense richesse. Il faut être clair. Malheureusement, nous avons une petite cervelle qui est coincée dans une grosse boîte. Et souvent, cette cervelle a été grillée par le monde. Et nous avons besoin vraiment que ça change. Nous avons besoin que ça change. Nous avons besoin que ça change. Et ça met du temps à changer. Parce que franchement, tout ce qu'on voit, tout ce qui parle de Dieu et de l'argent, c'est misérable en général. C'est misérable, pauvre et nul. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est pas la mentalité de Dieu. Donc Dieu nous demande à ce que ça change dans nos vies. À ce que nos mentalités changent. Ça me fait du bien de parler de la prospérité. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce cours-là, mais ça me fait du bien de le refaire. Amen, alléluia. Maintenant, nous allons parler de dîmes. Après avoir parlé de mentalité de Dieu. Alors, on va regarder la dîme et on va voir, parce que il y a un certain nombre de critères qu'il faut comprendre. Alors, on va regarder à nouveau la définition de la prospérité, donc dans 2 Corinthiens 9, parce qu'en fait c'est un texte qui va nous servir de référence et on va parler de la dîme après. On va relire ce texte ensemble. Et je vous rappelle que ce soit 2 Corinthiens 8 ou que ce soit 2 Corinthiens 9, on parle de sous, on parle de finances. Et Paul n'aborde pas cela avec gêne. Vous savez, parfois je vais dans des églises, pas ici forcément, loin de là, mais dans certains pays, et une fois j'étais dans une église comme ça, et j'ai touché à la dîme et aux offrandes, et j'ai parlé aux finances. Et alors, j'étais invité donc après à déjeuner chez les pasteurs, donc, le couple pastoral, et la dame a dit, « Ah, frère, c'est vraiment bien que vous ayez parlé de la dîme, parce que nous, on est toujours un peu gêné d'aborder ça dans notre église en tant que pasteur. Et vous voyez, il y a souvent cette mentalité qui est là. Et moi, je ne vois pas Jésus être gêné de parler de finances. Jésus n'était pas gêné de parler de finances. Et Paul, d'ailleurs, non plus, n'était pas gêné de parler finances. et particulièrement aux Corinthiens. Vous savez, les Corinthes étaient une ville qui était très riche. C'était une ville où il y avait beaucoup de commerce qui se faisait. Et Paul n'était pas gêné de parler de finances aux Corinthiens. Et vous savez, quand un prédicateur est gêné de parler de finances ou un chrétien est gêné de parler de finances, finances et Seigneur, Seigneur et finances, bah c'est qu'il a un problème. Il a un problème de mentalité. Et malheureusement, c'est souvent le cas chez les chrétiens. Argent, Dieu, argent, Dieu, argent, argent, Dieu, argent, Dieu, oui. Deux mondes séparés. Comme le disait un jour un frère, il disait un jour, c'était aux hommes d'affaires du plein évangile et il faisait les offrandes. Et il disait, voilà, c'était en France. Alors il disait, oui, nous savons que les Français ont le cœur à gauche et le portefeuille à droite. J'ai bien aimé. Pour ceux qui connaissaient, il y avait un comique qui s'appelait Raymond DeVos, je ne sais pas si vous avez entendu parler, hein. Et c'était son frère qui est sauvé et qui faisait les offrandes. Alors il avait un peu l'humour de son autre frère qui n'était pas sauvé. Et c'est vrai que parfois il y a des gens qui sont comme ça. Dieu et l'argent, l'argent et Dieu, deux mondes différents. Eh ben non, c'est un seul monde parce que, Seigneur, je te donnerai toute ma vie, sauf mon portefeuille. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Paul dit la chose suivante. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir, la capacité de vous combler, pas de juste mettre un petit peu dans votre sac, de toutes sortes de grâces, dont gratuit, faveur imméritée, afin que possédant toujours à tous égards, pas dans certains domaines et pas dans d'autres, de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas à un certain nombre de vos besoins seulement, vous ayez encore en abondance, c'est-à-dire pas un petit surplus, pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire prêt à avoir la capacité à donner. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice et vous serez de la sorte appauvri, non, enrichi, à certains égards, non, à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité. La libéralité, c'est de pouvoir donner d'une façon volontaire, c'est-à-dire un don volontaire, quelque chose que j'ai envie de faire. La libéralité, c'est ça. Qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu, c'est-à-dire que ce qui va être donné au ministère amènera des louanges envers Dieu, ce qui est donné pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, on va voir un certain nombre de choses concernant la dîme et la façon dont un chrétien doit se positionner, entre guillemets, pour qu'il apprenne à donner selon le royaume de Dieu. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce que Dieu nous promet. Quelles sont les promesses de Dieu au niveau finance. Alors d'abord, on va regarder un peu au niveau de la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Parce qu'il y a toujours beaucoup de questions. Vous avez certainement beaucoup de questions autour de cet aspect de la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Qu'est-ce que c'est qu'une offrande? Quelle est la façon de donner? Pourquoi on doit donner? Comment on doit donner? Qu'est-ce que Dieu promet? Qu'est-ce que Dieu ne promet pas aussi? Quels sont les abus qui ont été enseignés aussi? Parce qu'on va les voir. On va voir différentes choses qui sont importantes. Et aussi, construire une plateforme, où que vous en soyez, construire une plateforme qui vous permettra de libérer votre prospérité année après année. Amen. Alors d'abord, la dîme, on va voir que c'est une loi spirituelle. On va voir ça, parce que certains le disent, et souvent comme argumentation, ils vont dire, mais dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la dîme. Souvent, des gens disent ça. Ils disent, non, vous, là, vous enseignez des trucs, mais finalement, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la dîme. Eh bien, nous allons voir que la dîme n'est pas quelque chose de l'Ancien Testament. D'abord, l'Ancien Testament, vous vous rappelez que c'est pas vraiment l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce sont les anciennes alliances. Et ça, on l'a remarqué ensemble. Donc, on va voir que, comme d'ailleurs l'alliance de sang a été une loi spirituelle et est une loi spirituelle pour s'approcher de Dieu, on va voir que cet aspect de la dîme, c'est quelque chose aussi qui traverse les alliances. Parce que ça, c'est important à comprendre. Vous vous rappelez, quand je vous ai fait le cours sur l'alliance par le sang, je vous ai montré que, tout de suite, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a obligatoirement enseigné quelque chose à Adam et Ève, qu'ils ont enseigné à leurs enfants. Et d'ailleurs, nous avons vu que Caïn a refusé cet enseignement-là, À savoir que à partir du moment où quelqu'un allait s'approcher de Dieu, il devait quoi faire ? S'approcher avec un sacrifice de sang. Le sang devait couler. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et on voit que l'alliance par le sang traverse toutes les alliances. Nous sommes sous une alliance par le sang et Adam et Ève, quand ils ont péché, étaient sous une alliance par le sang. Et à chaque fois, on voit des gens s'approcher par une alliance par le sang. Et la dîme, on va voir des traces partout dans la parole de Dieu. Regardons ensemble. La première mention de la dîme, c'est dans Genèse 14. Un passage étonnant d'ailleurs. Très étonnant. Genèse chapitre 14. C'est dans la vie d'Abraham. Alors Abraham, on sait que c'est situé combien de temps avant Jésus ? Environ 1900-1950 avant Jésus. Abraham, il était sous quoi ? Il était sous la loi de Moïse ? Non. Il était dans l'après-déluge. Abraham n'était pas sous la loi de Moïse. Et là, d'un seul coup, on voit un passage. On se demande d'où ça sort. On va commencer à parler de la dîme. Et franchement, c'est la première mention de la dîme dans la parole de Dieu. Il est dit au verset 17, Genèse 14. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor la Homer, je pense que vous le connaissez, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, donc c'était un roi d'une petite ville, hein, Salem, qui veut dire paix d'ailleurs, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. C'est étonnant, c'est la première mention qu'on a ici. Rappelez-vous que le sacrificateur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait quoi ? Quelqu'un qui va représenter le peuple envers Dieu, qui prend des sacrifices, qui prend le sacrifice avec l'attitude qu'il y a derrière, que la personne vient offrir à Dieu et qui l'amène à Dieu. Et ce sacrifice doit être agréé par Dieu. Et là, on voit d'une façon étonnante un sacrificateur. Donc quelqu'un, et il est dit que c'était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Alors je sais que certains ont commenté que Melchisédek, c'était Jésus qui était là, enfin, etc. Doucement. Il y a eu des commentaires qui ont été faits sur Melchisédek qui sont un peu douteux, avec lesquels je suis vraiment réservé. Par contre, c'était un type de Christ, ce qu'on appelle. Un type, on verra les types et les ombres. On étudiera ça ensemble quand on fera interprétation de la Bible. Je vous montrerai qu'il y avait un certain nombre de personnages qui est ce qu'on appelle étaient des types, un type étant quelqu'un, pas un monsieur, un type, ça veut dire que c'est, comment ça vient, d'accord, ce qu'on appelle un type en théologie, hein, c'est pas un péjoratif, hein, pour dire monsieur, en fait c'est quelqu'un qui représente de par son caractère ou par certaines actions prophétiquement ce que Christ allait faire ou allait être, d'accord. Alors nous expliquons ça dans l'interprétation de la Bible. Donc, on s'aperçoit que ce Melchisédek, donc, est là, sacrificateur du Dieu Très-Haut. C'est la première mention d'un sacrificateur ici, qui apparemment avait une onction. Pourtant, on n'est pas encore dans la loi de Moïse. Mais on s'aperçoit que il y avait des prophètes, quelques-uns dans le monde, les gens qui marchaient avec Dieu, qui avaient une onction prophétique. C'est très clair. Noé en était un, entre autres. Enoch en était un aussi. Abraham en était un aussi. Et on voit ici sacrificateur. Première mention d'un sacrificateur aussi, de façon étonnante. Alors là, on n'a pas suffisamment de renseignements pour savoir exactement quelle était la révélation qu'ils avaient de Dieu, ces personnages-là, mais c'est des gens qui marchaient avec Dieu, c'est clair, c'est très clair. Donc, sacrificateur du Dieu Très-Haut, donc serviteur de Dieu, il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et d'un seul coup, Abraham va faire quelque chose, mais on se demande d'où est-ce qu'il sort ça. Abraham lui donna la dîme de tout. Comme ça. Pourquoi ? Comment ? Était-ce une coutume ? D'un seul coup, Abraham réfléchit, dit « Ah, tiens, je vais donner 10% de tout aux serviteurs de Dieu. » Ah bon ? Comme ça, ça lui est tombé comme ça ? Apparemment, non. Apparemment, non. Pourquoi ? Parce que on voit cette première mention. Abraham a l'air de faire quelque chose de particulier et il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il n'est pas dit, Dieu lui est apparu, Dieu lui parla et dit, vas-y, donne 10%, la dîme donc, à cet homme, à ce sacrificateur qui est mon serviteur. Pas du tout. On a l'impression qu'Abraham fait ça un peu comme ce qui devait être fait quand Abel vient avec son agneau, son animal, et qu'il faut s'approcher de Dieu. Bon, c'est une mention, comme ça de la dîme, qui a l'air de tomber, pouf, comme ça. Elle a bien une origine quelque part. Cette décision, cette action qu'Abraham fait ici, elle a obligatoirement une origine. D'ailleurs, quand on continue, regardons Genèse 28, verset 22. Genèse 28, 22. Une autre mention de la dîme. Genèse 28, verset 22. On va lire à partir du verset 20. Alors là, Jacob était un fuyard à ce moment-là. Jacob était rétrograde. Jacob avait été élevé dans une famille qui servait le Seigneur. Mais Jacob, c'était un trompeur et un menteur. Et il avait trompé son frère Ésaü. Jacob, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir l'héritage et la bénédiction divine. Mais c'était un homme qui, à ce moment-là, ne marchait vraiment pas avec Dieu. Mais il va faire une expérience très particulière. Il va fuir et il va avoir peur. Une grande terreur va être sur lui. Cet homme est en fuite et d'un seul coup, ce qu'il avait reçu comme connaissance de Dieu va lui revenir. Et il va s'engager à nouveau avec Dieu. Là, c'est un rétrograde qui revient à Dieu. C'est exactement ça. Vous pouvez relire tout ce chapitre. On n'a pas le temps de le lire. Mais d'un seul coup, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Alors ça, c'est vraiment la prière d'un pécheur qui vient à Dieu, qui met des signes devant Dieu pour savoir si Dieu est vivant et si Dieu va faire des choses pour lui. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle, c'est-à-dire en mémorial, sera la maison de Dieu. Bethel, en hébreu. Je te donnerai, alors d'un seul coup lui aussi, d'un seul coup, je ne sais pas ce qu'ils ont ces gens, hein, apparemment, les descendants d'Abraham aussi, d'un seul coup ils ont un virus, un drôle de virus. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. D'un seul coup ça lui tombe dessus, il y a un moustique qui l'a piqué pendant la nuit. D'un seul coup il dit voilà, mais pourquoi ça? D'un seul coup il revient à Dieu et il dit voilà, je te consacre ma dîme. Étonnant, non? Sans révélation, sans rien. Comme si c'était quelque chose qui avait l'air d'être perpétré de génération en génération. Le sacrifice de sang, c'est la même chose. Nulle part, il nous est dit clairement que Dieu parla à Adam et Ève en leur disant, voilà, à partir de ce moment-là, chaque fois que vous voudrez vous approcher de moi, il faudra tuer un animal et me l'offrir en sacrifice. Non. Par contre, tout de suite, à partir du moment où quelqu'un invoque Dieu dans la Genèse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un animal, il le coupe d'une certaine façon, il répand le sang et il invoque Dieu. Comme ça. Nous avons vu qu'il y a une origine divine au travers de ça. Là, on voit consécration à Dieu, tout de suite, la dîme. Donc, on voit quelques traces de la dîme avant la loi de Moïse. Donc ça, c'est clair. Puis, exactement comme l'alliance par le sang, Dieu, dans la loi de Moïse, va préciser des choses sur la dîme. Il va préciser des choses sur la dîme. Exactement comme l'alliance par le sang. Vous vous rappelez, l'alliance par le sang, dans la Genèse, on a un sacrifice qu'on offre et on invoque Dieu, d'une manière générale. On fait couler du sang, c'est vrai, et on invoque Dieu par un sacrifice. Voilà pour l'instant une règle générale. Mais quand on rentre dans la loi de Moïse, alors là, c'est clair. D'un seul coup, on commence à préciser les choses sur le sacrifice de sang, les différents types de sacrifices de sang. Et nous avons vu ça divin. Et d'un seul coup, la dîme, on va retrouver strictement le même principe. Strictement le même principe. Regardons ensemble les différentes mentions. Lévitique 27, là, on est dans la loi. On est dans la loi. Lévitique chapitre 27. Rappelez-vous, meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Et on voit Dieu faire avancer toujours son peuple. À chaque fois, des gens qui marchent avec Dieu, bon, au début, il n'y a pas grand-chose comme alliance, hein. Adam et Ève sont déchus, etc. Après, il y a Noé, après, il y a Abraham, etc. Puis après, il y a le peuple d'Israël, puis après, il y a l'Église. Meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Et à chaque fois, nous avons beaucoup plus de privilèges. Beaucoup, beaucoup plus de privilèges. Alors, Lévitique chapitre 27, il est dit, « Toute dîme, tout dixième, des produits de la terre, soit des semences de la terre. » Alors là encore, c'est une preuve que l'erreur de Caïn n'était pas le problème des fruits de la terre. Je vous le rappelle. « Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Pour toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, le dixième sera consacré à l'Éternel. Donc là, tout ce qui est récolte et tout ce qui est bétail, le dixième, c'est pour le Seigneur. Voilà l'ordonnance générale de ce que les Israélites donnaient. Donc Lévitique 27, 30 à 32. Donc je répète, Lévitique 27, 30 à 32. « Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Pour toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, le dixième sera consacré à l'Éternel. » Alors, ici, c'est clair. À l'époque, ils vivaient de quoi? Culture et élevage. C'est normal. L'argent n'était pas encore quelque chose qui était en circulation comme nos jours. Mais quand même, vous allez voir. Vous allez être étonné de ce qu'on voit dans la loi de Moïse. Donc là, Dieu précise. Il dit, le dixième des productions, le dixième de ce qui est produit par le peuple de Dieu est consacré à l'Éternel. C'est la dîme. Ensuite, on va voir différents passages. Regardons Nombre 18, 21. Nombre chapitre 18. Au verset 21. Là, Dieu va expliquer pourquoi la dîme, à quoi elle était, je dirais, destinée au départ. On va regarder différents passages avant de conclure. 18-21. On va lire à partir du verset 20. « L'Éternel dit à Aaron, « Tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux fils de Lévi tout dîme en Israël, en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. » Alors, que veut dire ce passage? Rappelez-vous qu'il y avait 12 tribus en Israël, et il y en avait une à qui Dieu n'avait pas octroyé de territoire. C'était la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que la tribu de Lévi était disséminée partout en Israël. Pour faire quoi? Pour faire le service. C'était eux qui étaient sacrificateurs. C'était les serviteurs, entre guillemets, de Dieu à ce moment-là. Ils étaient de la tribu de Lévi. Tous les sacrificateurs étaient de la tribu de Lévi. Il ne pouvait pas y avoir de sacrificateurs qui n'étaient pas de la tribu de Lévi. C'était ce que Dieu avait ordonné. Par contre, comme ils n'avaient pas d'héritage quand le pays a été partagé, à ce moment-là, le peuple d'Israël devait les soutenir au niveau des finances, des revenus. Pourquoi? Parce que c'était des gens, ces sacrificateurs-là étaient mariés, ils avaient des enfants. Ils devaient manger, ils devaient bien acquérir des maisons, entre guillemets, ou avoir des endroits où ils puissent être, même s'ils n'avaient pas de tribu où il y avait un territoire réservé. En tout cas, ils avaient le droit d'acheter des propriétés, c'est clair, mais dans des endroits différents. Ils n'avaient pas un territoire réservé pour eux. Ils n'avaient pas eu une part de l'héritage directement. Alors, c'est intéressant, on va voir différents passages. Deutéronome 14, 22. Deutéronome 14, 22. C'est vraiment un parallèle. 14, 22 à 29, c'est un long passage sur la dîme. Deutéronome 14, 22 à 29. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que te rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu bétail, vin et liqueur, et tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras là devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi. Le Lévite, rappelez-vous, c'était la tribu qui servait, qui résidera avec toi et qui n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Pendant cette 3e année, tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin, la veuve qui résideront avec toi. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Bon, là, on voit que ces dîmes étaient réservées à quoi? D'une part, pour ceux qui servent et pour leur famille, et d'autre part aussi, pour qui? Pour les indigents du peuple, pour aider les pauvres parmi le peuple. C'était pas seulement pour les Lévites, c'était aussi pour ceux, les veuves, les orphelins du peuple de Dieu. Alors c'est intéressant de remarquer aussi plusieurs choses. Il y avait des endroits spécifiques réservés de la part de Dieu où des gens venaient pour adorer. Là où il y avait des sacrificateurs, là où il y avait des Lévites qui étaient là pour faire le service. Dans différents endroits d'Israël. Et là, le peuple de Dieu mettait sa dîme de côté et il venait dans ces endroits-là. Par contre, si le chemin était trop long, ils transformaient leur récolte, la dîme de leur récolte, la dîme de leur bétail, en argent. Mais nous le savons, à cette époque-là, l'argent n'était pas quelque chose de très très courant comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent, c'est vraiment le moyen par lequel tout passe. On troque rarement actuellement, on échange rarement une chose contre une autre. La majorité du temps, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as quelque chose à vendre, même si tu veux acheter autre chose, en général, tu passes par le moyen de l'argent. On change, tu vends ce que tu as, tu récupères de l'argent, et avec cet argent, ça te donne le potentiel de pouvoir racheter autre chose. Donc on passe par l'argent. Mais très souvent, et à cette époque-là, c'est clair, il n'y avait pas énormément d'argent cash, comme nous connaissons aujourd'hui. Les billets de banque, les choses comme ça n'existait pas. C'était des pièces. Ils forgeaient ces pièces-là, etc. Mais c'était toute une histoire. Bon, on ne sait pas exactement quelle est la quantité à cette époque, au départ-là. Mais c'était pas énorme. C'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Il faut être bien clair. Alors, c'est intéressant de voir dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 14, juste un petit parallèle dans le Nouveau Testament. Puis après, nous retournerons encore dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 9, 14. C'est Paul qui parle. On va lire un peu plus haut, bien sûr. On va lire à partir du verset 1, mais c'est intéressant. C'est vraiment un passage qui est assez intéressant dans ce domaine-là. Paul dira, donc 1 Corinthiens 9, verset 1, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis du moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » C'est-à-dire qu'en fait, c'était lui qui les avait engendrés. Ils étaient le fruit de son ministère. Là encore, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui veulent manger les fruits de ce qu'ils n'ont pas semé. Et c'est très très mauvais. « C'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ?» Là, il parle des serviteurs de Dieu, ceux qui annoncent l'Évangile, vous allez voir. N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas, c'est Pierre, Céphas, bien sûr. Pierre était marié, ce passage nous le montre. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler, c'est-à-dire que nous sommes obligés de travailler pour subvenir à nos besoins. Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Heureusement qu'il n'a pas de manger le troupeau, il doit se nourrir du lait du troupeau. C'est pas la même chose. Ok? Est-ce en homme que je parle ainsi? La loi aussi ne le dit-elle pas? Donc Paul fait quoi ici? Un rapport entre la loi quoi? De Moïse, on est d'accord. Il fait vraiment un parallèle. Il dit la loi le dit aussi. La loi de Moïse en parle. Et il va expliquer. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous, parce que dans le sens où Paul dit, c'est une image ici que la parole de Dieu prend. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part, c'est-à-dire ceux qui fait moudre le grain aussi. Nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions aussi vos biens matériels? Ou si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? C'est-à-dire nous qui avons semé, nous qui avons labouré, nous qui avons planté. C'est ce que Paul dit ici parmi les Corinthiens. Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Paul était sage, il savait qu'il ne devait pas abuser de ce droit. Paul s'est fait soutenir à plusieurs reprises. Il s'est fait soutenir financièrement. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, c'est-à-dire les sacrificateurs, sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Et ça, c'est une règle dans le Nouveau Testament. Mais là encore, faut-il avoir une onction. C'est pour ça que certaines personnes se mettent eux-mêmes dans le ministère, elles-mêmes dans le ministère, sans onction, et elles se plaignent, et après, ça devient des prédicateurs mendiants. Pourquoi? Parce que le ministère est surnaturel. Quelqu'un qui est dans le ministère, qui fait ce que Dieu lui demande, Dieu va pourvoir miraculeusement à ses besoins. Mais il pourvoira au travers des mains des saints, c'est-à-dire de l'Église. Et ça, c'est une règle claire qui est dans le Nouveau Testament. Alors Paul dira qu'il n'a pas toujours usé de ce droit. Paul dira qu'il y a des fois, il s'est arrangé avec ses propres finances. Paul était quelqu'un qui était très riche, il venait d'une famille très riche, c'est clair. Il avait étudié dans une des meilleures écoles rabbiniques de l'époque, et c'est clair que sa famille était très riche. Il y avait deux grandes écoles rabbiniques à l'époque pour apprendre la loi de Moïse, et Paul était dans une de ces écoles-là. Donc c'est clair, Gamaliel c'était une de ces écoles-là, Gamaliel étant le grand maître de cette école, et c'était des écoles qui coûtaient très cher. À l'époque, l'éducation était très fermée, c'est seulement les gens riches, et surtout très riches, qui pouvaient aller dans ces écoles-là. Hein, c'est un peu comme aujourd'hui les écoles américaines, en quelque sorte. Hein. Si vous allez dans un pays où il y a une école américaine, préparez votre portefeuille. En général, elles sont très chères. D'accord? Et en fait, Paul dira qu'il n'a pas usé de ce droit. Il est vrai qu'il y a des fois où Paul était dans un certain besoin et que les saints ont pourvu à ses besoins pendant son ministère. Ça, ça a été très clair. Il y a eu d'autres moments dans le ministère de Paul où il a travaillé d'ailleurs. Hein? Il a fabriqué des tentes, ça nous est dit dans les Actes des Apôtres. Et il y a eu des moments où il vivait, c'est clair, de ses propres finances et d'autres moments où il a été soutenu. Il a été soutenu. Dans les Philippiens, c'est dit qu'il a été soutenu. Mais ça, on va en parler petit à petit. Ce que j'essaie, c'est de construire en vous certaines choses qu'on voit. Alors maintenant, on va voir deux passages qui sont importants et qui nous montrent la destination des finances. On en a vu un, c'est que ceux qui servent puissent vivre de l'Évangile ou, dans l'Ancien Testament, vivre du service. C'est clair, c'est une loi d'égalité qu'on retrouve. Et en fait, on va s'apercevoir que dans l'Ancien Testament, il y avait deux grands buts pour la dîme. Regardons ensemble dans Malachie. Malachie 3, passage qui est très connu, surtout pour les prédicateurs qui aiment condamner et qui veulent que les gens donnent dans les paniers d'offrandes et de dîmes. Mais dans ce passage, il y a tout un contexte, bien sûr. Malachie chapitre 3. Verset 7 nous montre le contexte. Vous savez, quand on prêche à partir d'un certain nombre de certaines écritures, il faut toujours regarder le contexte, parce qu'il y a des gens qui prennent juste quelques versets et qui prêchent dessus, et ça crée une certaine confusion. « Depuis le temps de vos pères, verset 7, Malachie 3, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas regardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi nous devons revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites en quoi t'avons-nous frustré? Sur les dîmes et les offrandes, ou les prélèvements dans d'autres traductions. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. » Alors là aussi, tout le contexte de l'Ancien Testament, là encore une fois de plus. D'accord? La loi de Moïse, on obéit à la loi, on voit la bénédiction. On désobéit à la loi, la malédiction tombe. Et dans la loi de Moïse ici, c'est clair. À partir du moment où le peuple désobéissait dans les dîmes, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui se passait? La protection divine de la prospérité s'écartait, et à ce moment-là, le dévoreur arrivait. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans ce passage. Ici, nous sommes dans un temps qu'on appelle d'apostasie, c'est-à-dire, dans ce temps-là, Israël était loin de Dieu. D'ailleurs, Malachie était le dernier prophète. Je vous l'ai dit, 400 ans avant Jésus, après, pendant 400 ans, Dieu va être muet pour son peuple, au niveau prophétique. Dieu n'enverra pas de prophète pendant presque 400 ans, 350 à 400 ans. Et en fait, dans le temps de Malachie, le peuple était vraiment en apostasie. Et Dieu se plaint ici. Il dit vraiment, vous me frustrez. Et regardez, quand on voit Jacob, le passage qu'on a lu tout à l'heure, Jacob revient à Dieu, il dit, Seigneur, vraiment, moi je veux marcher avec toi, et aussi, ce que je veux, c'est de consacrer ma dîme. Tout de suite. Réflexe. Abraham, il gagne une grande bataille, il va vers Melchisédek et tout de suite, il parle finance, il donne. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de particulier. Là ici, Dieu leur dit, mais vous vous moquez de moi. Vous vous moquez de moi. En quoi, Seigneur, on se moque de toi? Regardez ce que vous faites. Vos finances, vous ne donnez plus rien. Vous ne donnez plus rien. Et c'est ce qu'il dit ici. Alors, la malédiction, je vous rappelle que ça, ce n'est plus juste pour nous. Faisons bien attention là-dessus. Par contre, nous allons voir que apprendre à donner sa dîme dans le Nouveau Testament, ça permet justement à la prospérité de couler dans nos vies. C'est là où on va voir. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a aucune malédiction sur nous. Nous sommes bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Maintenant, si tu désobéis à la parole de Dieu, là, attention, tu bloques, tu ouvres des portes à l'ennemi, c'est clair. Et tu bloques aussi ta bénédiction. Et dans différents domaines. Il y a des gens qui sont très ouverts à certaines choses. Ils obéissent au Seigneur et ils sont bénis dans certains domaines et dans d'autres domaines, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le Nouveau Testament. Alors, Dieu dit, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait quoi? Des provisions dans ma maison. Donc la dîme servait à quoi? À ce que la maison de Dieu soit financée. À ce qu'il n'y ait pas de délabrement et à ce que ses serviteurs puissent vivre décemment. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverserai pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. On étudiera ces parties-là après. Et il ne vous détruira pas les fruits du sol et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureuse. Bon, donc ici, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir où allait la dîme. La dîme allait dans le trésor du temple. Et c'était pourquoi? Pour que le temple puisse fonctionner normalement. Pour que le temple puisse fonctionner normalement. Regardons Agée. Agée chapitre 1. Agée chapitre 1. Agée, c'est juste avant Zacharie. Malachie, Zacharie, Agée. Là, on est dans la reconstruction du temple. Là, on est dans la reconstruction du temple. Vous savez que le temple a été détruit, survol de l'Ancien Testament. Nabuchodonosor a tout cassé, il a envahi Jérusalem. Et puis, les Israélites ont été déportés. Et après, les Israélites, une partie, sont revenus en Israël. Et Dieu, là, se plaint contre son peuple. Il dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il va nous expliquer pourquoi. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Chapitre 1, bien sûr. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Alors qu'est-ce que c'est que le lambris? Le lambris, vous savez, c'est du bois qu'on met partout. Il y a dans certaines maisons, on met du bois au plafond, on met du bois sur les murs, on met du bois verni partout, c'est très joli. On appelle ça du lambris. Et quand cette maison est en ruine, c'est-à-dire quand ma maison est en ruine. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé, vous avez rapporté peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas pour être saoul. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Bon, ça, c'est pas bien, ça. Quand on reçoit un salaire dans un sac percé, c'est dur, là. C'est-à-dire que la vie est très dure. Ainsi parle l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus à cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Et là, il va parler après de tout ce qui est malédiction de la loi encore. Mais l'idée, c'est quoi ici? L'idée, c'est de dire, ok, c'est bien de penser à nous-mêmes, mais l'attitude aussi doit toujours être de penser d'abord au Seigneur. L'idée, c'est la priorité, c'est quoi dans nos cœurs? Est-ce que la priorité, c'est la maison du Seigneur? Construire le royaume de Dieu? Parce que nous savons que la maison du Seigneur, c'est pas seulement physique aujourd'hui, mais c'est d'aller prêcher l'évangile sur toute la terre, c'est faire des nations des disciples, c'est d'avoir les moyens de pouvoir porter l'évangile là où toutes les oreilles veulent entendre l'évangile. Est-ce que ta priorité, c'est ça? Ou est-ce que ta priorité, c'est moi, 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 moi? Et là, c'est une question que Dieu posait à son peuple. Vous vous faites des belles maisons, mais finalement, vous avez du mal à vivre après. Et puis, pour ma maison, il n'y a rien. Vous donnez rien, vous ne faites rien. Et Dieu leur reprochait ça. Dieu leur a fait ce reproche. On va s'en arrêter là parce qu'on va continuer après sur la dîme.